Bonjour Guillaume, rebonjour.
Le point de départ de cette revue de presse ce matin s'impose de lui-même.
Évidemment Guillaume, mais c'est partout dans la presse. C'est la période qui veut ça, c'est subliminal, mais c'est bien présent. C'est un sport qui traverse la presse ce matin et pas n'importe lequel. Je vais bien sûr parler du cyclisme. Ah, Brice Couturier en parlait il y a quelques minutes ce matin.
Le vélo.
Dans la presse, absolument. Une figure comme celle de l'écrivain
ça
Antoine Blondin.
Ça plaît à Benjamin Hue, notre
réalisateur,
le vélo.
Ça plaît à plein de monde. Il y a la figure de l'écrivain Antoine Blondin qui est un peu partout. Par exemple dans Paris Match, qui titre Antoine Blondin. Un singe enivré, clin d'œil à la fois à son livre Un singe en hiver et à son penchant pour la boisson. Il nous quittait il y a 25 ans, écrit Philibert Hume dans Paris Match. Celui-ci se souvient qu'au lendemain de ses obsèques à Saint-Germain-des-Prés, François titrait « Même l'église était bourrée ». On n'a jamais su si le fait de boire le libérait pour écrire ou s'il avait du mal à écrire parce qu'il buvait, s'interroge Pierre Assouline qui s'était longuement entretenu avec l'écrivain. Antoine Blondin était le grand écrivain du cyclisme dans l'équipe où, nous rappelle-t-on, il a écrit des centaines d'articles. Le cyclisme, grand sujet ce matin, avec le grand dossier de Paris Match, toujours Paris Match, que ce dossier que Paris Match consacre à Mohamed Ali.
Ah oui.
Car oui, on apprend qu'enfant, il avait voulu se mettre à la boxe parce qu'une brute lui avait volé son vélo. La petite reine mène à tout. Pour être tout à fait honnête, Philippe Labro développe très peu l'anecdote dans son article, préférant raconter sa rencontre avec le champion qui a été enterré hier. C'était le 8 mars 1971, cette rencontre au moment du retour du boxeur au Madison Square Garden à New York. Dans un geste qui se veut d'encouragement, je pose ma main sur l'avant-bras d'Ali, se souvient Philippe Labro. Il sursaute alors comme s'il avait été atteint par une décharge électrique. L'œil révulsé, il me lance « Don't touch me, ne me touchez pas ». Ça voulait dire « À quelques heures d'un match, on ne touche pas à l'endroit d'où va partir l'éclair fatal, la source du punch. Ne me touchez pas », répète-t-il. « Et je lis », dit Philippe Labro, « non pas de l'hostilité dans son regard, mais une lueur que je ne parviendrai jamais à définir, quelque chose comme la certitude d'un mystère ». Il devait perdre ce jour-là, en 1971, de façon ingrate contre Frazier, rappelle le journaliste écrivain. Et oui, mais il avait prévenu, il ne fallait pas le toucher. Sans doute que personne n'avait touché la cuisse d'Eddie Merckx le 18 juillet 1969. Il avait annoncé qu'il passerait tous les cols en tête. Et il s'est envolé dans une échappée de 140 km dans les Pyrénées, entre Luchon et Mourinx. Une photo impressionnante immortalise ce moment et elle est publiée dans un format XL dans le hors-série Maillot jaune du journal Le 1. Le 1 n'est pas un journal qu'on feuillette, mais qu'on déplie. Et donc, quand on déplie ce hors-série, au verso, on trouve cette photo aux couleurs vintage, signée Henri Besson. Au verso, on trouve plusieurs textes qui décortiquent la légende du maillot jaune, dont celui de Philippe Brunel. « Le Tour de France scénarise, arbitre nos duperies, nos élans », écrit-il. « Il mesure jusqu'au désenchantement la force de nos attachements, car le Tour ne prétend pas à la sainteté. Le divin y côtoie le démoniaque. Ces héros, demande Brunel, des hommes saints qui nous ressemblent, cupides, faillibles, sans religion, capables de renier leurs paroles pour ce maillot jaune, ce bout d'étoffe jadis sans laine, dont le rite relève du Saint-Sacrement, parce qu'il offre à ceux qui l'endossent cette occasion rare de laver leurs offenses et de s'incarner dans quelque chose de meilleur. » Les superlatifs et les exagérations font partie du romantisme du cyclisme et Philippe Brunel n'y échappe pas. Aussi vrai que l'homme descend du songe, disait Blondin, le maillot jaune est né d'un rêve.
De quoi faire un parallèle avec une tribune parue dans Libération ce matin.
Oui, c'est la chronique de la philosophe et psychanalyste Anne Dufour-Mantel, précisément une chronique intitulée « La fin du sublime ?» Point d'interrogation. La sublimation a vécu, écrit-elle, la pulsion a trouvé un regain de toute puissance dans un monde qui ne supporte aucune limite pour la satisfaire. Immédiateté, vitesse, fluidité appellent une société sans frustration ni délai. Mais la sublimation, c'est quoi? Reprenant Freud, voilà ce qu'elle dit. La sublimation, c'est un processus inconscient de conversion de l'énergie qui nous porte à créer spirituellement et artistiquement. Attendre, imaginer, espérer, c'est faire face au chaos de nos envies et de nos tourments en leur donnant un ordre symbolique. Il est plus question de création artistique que de cyclisme, dans ce que dit Anne Dufour-Mantel, mais on n'est pas loin du sport et du regard qu'on porte dessus, que ce soit Philippe Brunel ou Blondin, dans ses articles de jadis, écrire la légende, construire la tragédie pour que le lecteur-spectateur s'y projette, lui et ses pulsions. Deux dessins sportifs dans la presse du jour. D'abord, Willem, sur la même page que la chronique d'Anne Dufour-Mantel dans Libé, un énorme ballon dans un stade protégé par des policiers surarmés, un hélicoptère au loin et au premier plan. Un agent parle dans son talkie-walkie et annonce « il va y avoir du sport ». Autre dessin, celui de Plantu à la une du Monde, daté d'aujourd'hui, François Hollande est dans les cages, sous-titre « L'angoisse du gardien de but au moment de la grève ». Parce que oui, aujourd'hui, étonnamment, il est aussi question de football dans la presse, mais pas mal dans les pages économie et société, je vous assure. Vous vérifierez, au-delà de la question du climat de contestation sociale dans lequel s'ouvre aujourd'hui donc l'Euro 2016, l'économie de la compétition interroge les journaux. Le magazine Challenge, par exemple, consacre sa couverture au foot business et revient notamment dans un article signé Jean-François Arnaud et Pauline Damour sur la trouvaille de Platini, président de l'UEFA jusqu'au mois dernier. Il a souhaité ouvrir la compétition à un plus grand nombre de nations, explique un cadre de l'organisation. Il y a 24 équipes au lieu de 16. Si l'intention est généreuse, ses conséquences sont très lucratives, lit-on dans Challenge. On complétera utilement cette lecture par celle d'alternatives économiques qui fait aussi sa une sur le foot, avec notamment l'article de Vincent Grimaud où on apprend que l'UEFA a demandé aux commerçants installés à proximité immédiate des stades de lui payer une redevance de 600 euros par jour de match et de ne servir que des produits, des boissons officielles de la compétition.
Eh oui.
Alors, après contestation, finalement, les commerçants vendront ce qu'ils veulent, nous raconte-t-on, mais les concurrents des sponsors officiels ne pourront pas faire de publicité dans un rayon d'un kilomètre autour des stades. Par ailleurs, on apprend aussi que la question des retombées économiques de l'événement est soumise à suspicion. La surestimation des retombées économiques est aujourd'hui la règle. Voilà la citation d'un universitaire dans l'article d'Alternatives économiques. Cette histoire des retombées économiques, c'est de l'enfumage, estime carrément Loïc Ravenel du Centre international d'études du sport. Assumons qu'à ce niveau de sport-spectacle, le foot ne rapporte pas, dit-il, et reconnaissons qu'on veut l'euro pour des questions d'image, de fête populaire, mais arrêtons de vouloir le justifier économiquement.
De toute façon, vous salissez tout, parler d'argent et de sport, c'est vraiment dégoûtant, Thomas Baumgartner. Pour moi, le sport, c'est autre chose, mais quoi d'ailleurs? Une affaire de quoi?
Une affaire de littérature peut-être, on s'en rend compte dans le hors-série de la revue Des Sports, qui met en regard 30 photos de foot de toutes les époques, foot européen bien sûr, et des textes d'auteurs contemporains, européens aussi, qui regardent chacun une photo. Il y a Roberto Saviano, Maïs de Kerangal, Lola Lafont, Éric De Luca, Patrick Rougiers, Olivier Guez qui était là tout à l'heure aussi. Et dans ce hors-série, il parle d'une photo où on voit Matthias Sindelar, joueur autrichien des années 30, qui a marqué contre l'Allemagne nazie. Mais on peut aussi s'arrêter sur le texte de Paul Fournel. Il commande une photo où l'on voit le joueur tchécoslovaque Antonin Panenka, en 1976, marquer un but qui permettra à son équipe de remporter le championnat d'Europe des Nations. C'est un pénalty. Voilà ce qu'écrit Paul Fournel. À l'instant même où cette photo est prise, Panenka se dit que le gardien allemand Zepp Maier va anticiper son pénalty en plongeant à droite ou à gauche. Il a donc une chance sur deux de rater son coup. Il décide de se donner toutes les chances en anticipant l'anticipation. Fournel poursuit, il va tirer au milieu, à l'endroit exact où le gardien ne sera plus. Ce petit coup de génie fera sa gloire et sa postérité, son nom. Panenka deviendra commun, mais lui restera inoubliable. Il n'y a guère d'autres figures dans le football qui portent le nom d'un joueur. La Panenka, tout le monde la connaît sous le nom de son créateur. Une histoire de mots donc, une histoire de langue pour dire le jeu, la figure et le joueur tout en même temps. Une histoire signée Paul Fournel, donc, par ailleurs auteur il y a quelques années d'un livre intitulé « Besoin de vélo ». Ce matin, décidément, vraiment, le cyclisme est parti. Bonne journée.